et vous écoutez France Culture. Je suis fou de rage et je ne vais plus me laisser faire. Sidney Lumet, Paddy Chayefsky. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Actualité vidéo ce soir dans Mauvais Genre qui évoquera Forbans de la Nuit et Pirates des Médias. Les a mis en scène dans le monument de Jules Dassin, tourné à Londres et sorti sur les écrans en 1950 avec Richard Widmark et Gene Turney et somptueusement édité par Whiteside Vidéo. Les seconds évoqués par Sidney Lumet dans Network, une version collector, paraît chez Carlotta. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre qui fera ce soir l'actualité du DVD. Je salue Hervé Aubron, comment va-t-il ?
Ça va bien, bonsoir, bonsoir.
Êtes-vous fou de rage ?
Non, ça va, là, je suis tranquille.
Hervé Aubron, donc rédacteur en chef du nouveau magazine littéraire et également historien et critique de cinéma. La dernière fois que vous vîtes nous voir, c'était pour...
Werner Herzog, peut-être ?
Werner Herzog, absolument. Vous aviez donc publié...
C'était le livre à quatre mains, voilà. Avec Emmanuel Burdeau, Werner Herzog, pas à pas, mais je pense qu'il y a dû y avoir peut-être cinq films depuis.
Qu'on n'a pas tous vu.
Depuis, quelques publications cinéma, Hervé Aubron?
Écoutez, non, je suis assez calme en ce moment, mais là, je vais me lancer dans un chantier.
Mais vous n'avez pas l'intention
je me lance
faire.
Dans un chantier quand même qui va me demander un peu d'énergie, c'est pour ça que je me réserve, puisque je me lance dans la biographie de Manchette, de Jean-Patrick Manchette.
Ah, bah alors. Rendez-vous dans quelques temps à Mauvais Genre, alors.
Vous me laissez un peu de temps quand même, là, j'ai pas commencé à...
À la rentrée. Rendez-vous à la rentrée pour cette biographie de Manchette.
Bon, on va faire ça, ouais.
Excellente nouvelle, Hervé Aubron. Ça, alors là, on ne vous perd pas de vue. Philippe Rouillet, comment va-t-il?
Bonsoir, très bien, très bien. On est à J-3 du Festival de Cannes.
Voilà, 11 mai, J-3. Quels sont les films que vous apprêtez à aller voir et à nous recommander, ou à nous décommander?
Tout, et il y a des films qui sortent, donc on peut avoir un œil dessus. Le Pedro Almodovar, Douleur et gloire vendredi prochain,
alors
qui est un film autobiographique. C'est très intéressant de voir comment il met en scène Banderas en cinéaste vieillissant, isolé, dépressif, qui va un peu repenser sa vie et son enfance et son œuvre pour voir s'il a tourné un autre film. Et finalement, c'est un chant d'amour au cinéma. C'est une sorte de mélange d'Amart Kord et de 8,5, si vous voulez.
Et à part ce film qui va sortir...
Il y a le défi des Dardennes sur la déradicalisation, le jeune Ahmed. C'est tout à fait à suivre. Et puis après...
Alors, de mauvais genre,
De chez mauvais genre, on ouvre avec Jarmusch et une comédie de zombies. Donc c'est prometteur. On va bien voir ce que ça donne. Mais il y a aussi des zombies à la quinzaine, des réalisateurs, avec le film de Bonello. On revient aux zombies haïtiens, c'est Zombie Child. Et puis il y a...
Dain aussi.
L'ouverture de la quinzaine.
Le film de genre.
Le Dain, quel en est l'argument?
Alors l'argument, c'est Jean Dujardin qui est amoureux de sa veste en Dain. Et la quinzaine des réalisateurs, c'est prometteur cette année, parce qu'on commence avec Dujardin, mais qui est amoureux, mais réellement. Et donc, ils ont ensemble un projet avec sa veste.
Même possédé.
Un projet qui concerne l'humanité.
Il est possédé par une veste en Dain.
Possédé par la veste ou par le Dain?
Non, par la veste.
Ah, la veste.
Et on finit la quinzaine avec Yves, le film de Benoît Forgeard avec William Legbill, où là, lui, il sort avec son frigo. Et il fait du triolisme avec...
Avec le friseur.
Voilà.
Non, mais je vous demande.
On va avoir Malik, quand même, qui revient à un cinéma très narratif, une grande fresque historique. Bong Joon-ho, extraordinairement attendu avec Parasite. Une famille d'arnaqueurs qui s'invite, c'est une famille de riches. Et qu'est-ce qui se passe? Ça vire à la métaphysique.
Comme toujours.
Et qui peut casser les briques. Et puis voilà. Puis il y a plein de trucs. On va même voir Nicolas Winding Refn vient présenter des épisodes de sa série.
Je crois
Amazon.
Même savoir que la masterclass avec Winding Refn est un des grands moments du festival. Monsieur
c'est
Rouillet.
Ça. On a rendez-vous à 18h, à 16h le.
Voilà. Et
le
c'est
18.
Vous qui pousserez la chanson en compagnie du maître.
Voilà.
Très bien.
Beaucoup de choses. On en reparlera à mon retour.
Oui, non, c'est très
Là, j'aurais vu les films vraiment. Là, on est dans l'expectative.
On est dans la supputation.
On est dans l'attente.
Voilà, bah nous, à Mauvais Genre, on n'est pas amoureux d'une veste en daim, mais de la petite robe noire de Céline Duchesnay.
Comment va-t-elle? Bonsoir, François.
Bonsoir.
Écoutez, je vais fort bien, je vous remercie.
Bon, et ce soir, qui rencontre-t-on?
Ce soir, nous allons rencontrer, au détour d'une rue, Jean-Bernard Gilot.
Moi, je suis un passeur d'objets, je suis un libraire. En fait, je passe mon temps à avoir des objets qui vont arriver, qui vont me passer dans les mains, que je vais essayer de valoriser, que je vais rendre sympathique, intéressant, et voilà. C'est ma manière de fonctionner. En fait, je suis un passeur d'objets, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. En fait, ça peut être les livres, puisque c'est les livres, les instruments, les manuscrits, voilà, on pourrait citer les objets qui passent, voilà, j'ai un très bel objet actuellement en vitrine, c'est un cosmoplane, c'est un objet. Il s'avère que c'est un objet très rare, mais c'est le deuxième que j'ai. J'en ai vendu un dans un musée, le musée de Langres, le musée de Denis Diderot. C'est un appareil qui est fait par l'abbé Dickmar, qui est un appareil du XVIIIe siècle, qui est censé se rapprocher de l'astrolabe. Alors l'astrolabe, c'est un appareil de navigation plus ancien, etc. On va pas faire... Mais a priori, il n'est pas sûr que cet appareil n'ait jamais été capable de fonctionner. Mais il y a un... Il y a la Terre dessus, il y a des objets qui tournent, qui se déplacent, etc. Mais l'objet reste un très très bel objet. On pouvait l'emmener dans un décor, mais sur un bateau, je ne suis pas sûr que ça pouvait servir à grand chose. Voilà, donc j'essaye de m'occuper de choses un peu curieuses, bizarres. Mais c'est formidable, quoi, c'est tant mieux.
Lorsque l'on entre dans la librairie de Jean-Bernard Gilot, libraire très spécialisé dans les sciences et la médecine, rue Jacob à Paris, on commence par lever les yeux au plafond où se trouve suspendu un superbe crocodile empaillé. Et le ton est donné. Cette boutique, créée en 1958 par Alain Brieux, tient aussi bien du cabinet de curiosité que de la bibliothèque du capitaine Nemo. Des volumes de Jules Verne sur les étagères, des corsets orthopédiques du 19e siècle accrochés de ci, de là, des globes, des sortes d'alambics, un appareil à mesurer les crânes datant de la grande époque de la phrénologie, quelques scies chirurgicales et des météorites comme s'il en pleuvait, Jean-Bernard Gilot étant aussi à ses heures perdues un chasseur de météorites. Chaque objet, chaque livre dans cet endroit a une histoire qu'il faut souvent reconstituer. Alors Jean-Bernard Gilot enquête, fait des recherches, questionne et de fil en aiguille, il finit très souvent par avoir le fin mot de l'histoire.
On a eu une belle histoire, on a eu un gorille ici qui était un gorille en papier mâché fabriqué par M. Ozu. C'est un monsieur qui a inventé le système du papier mâché. Donc il vendait des objets essentiellement autour du corps humain. Après il a fait les animaux et on a eu un modèle de démonstration. C'est un gorille en papier mâché avec taille réelle. On dit que la plus belle collection anatomique de papier mâché, ce serait... à la Vatican, parce que c'était pour ne plus détruire des corps humains, donc c'était une manière d'expliquer le principe du corps. Il avait été fabriqué pour Napoléon III, voilà, donc c'est des objets qui se déboîtent, on a le cerveau, le cœur, etc. Et donc après on peut avoir le cœur qui se démonte, etc. Donc c'est des objets formidables, et moi j'ai eu la chance d'avoir ce truc qui était vraiment une pièce incroyable. Le gorille est arrivé, j'ai eu du mal à le vendre, j'ai fini par le vendre, l'objet était juste sublime. J'ai fait un salon à New York avec, je l'ai emmené dans une caisse, tout le monde était fasciné par l'objet, personne ne voulait l'acheter. Et il a fini par être acheté par un marchand belge qui l'a revendu à Damien Hirsch pour le démonter. Donc il est vendu, et maintenant il est en pièces modernes, totalement démonté, donc il perd à mes yeux tout, vraiment, qu'il y a un artiste qui a trouvé que c'était formidable. Donc l'objet est démonté, donc il n'a plus la même raison d'être, mais on en a fait un objet qui maintenant ne doit plus coûter 50 000 euros, mais doit coûter 500 000 ou je ne sais quoi. Voilà, donc j'ai eu aussi le petit bonhomme Ozu dans sa boîte, parce qu'il y a toujours je raconte la même histoire. Ozu avait fait une petite boîte, il faisait un petit mannequin qui faisait 110, 116 je crois. Et donc il y a dans le Bouvard et Pécuchet, il y a à un moment donné Bouvard qui raconte qu'il a acheté le petit bonhomme Ozu qui est arrivé, donc et puis on ouvre la boîte et puis il y a de la paille, parce que c'était projeté par la paille à l'époque, on mettait pas du carton ou du bulle, etc. Eh ben, je suis un exemplaire comme ça. Il avait même le zizi. Par exemple, j'ai des objets qui sont des travaux de bagnards. Quand ils étaient au bagne, donc ils sculptaient. Puis donc, je pense que quand les gens venaient, on devait vendre les objets pour des. Ça aidait à faire vivre un peu les bagnards, quoi. Donc, c'était un peu de l'art populaire et des objets de fin 19e, début 20e, voilà, jusqu'en 1930. Je suis qu'un passeur, quoi, donc. Mais c'est vrai qu'il y a tous les jours des gens qui rentrent qui font waouh, wonderful, it's very nice, etc. Tout, voilà, donc on a ça tout le temps. Sauf aujourd'hui, il pleut, mais bon, parce que c'est comme ça.
Jean-Bernard Gillot, libraire et passeur d'objets de la rue Jacob à Paris, a retrouvé aussi dans le petit livre du macabre de Paul Gambino aux éditions Marabout, un livre en texte et en images consacré à 18 collections singulières et étranges autour du macabre. Jean-Bernard Gillot y fait l'objet d'un beau portrait, présentant aussi quelques-unes des pièces rares passées par sa librairie, dont une série de photographies 19e siècle de Félix Méheux sur les pathologies du corps humain. Pour plus d'informations sur la librairie, www.alainbrieux.com.
Merci Céline pour cette entrée. Jean-Bernard Gillot de notre encyclopédie pratique des mauvais genres. Le docteur Ouzou, j'ai un culte pour cet homme. J'ai même entendu le récit d'une visite de l'atelier traditionnel de la maison par mon cher père, il y a bien longtemps, qui était dans le département de l'Eure et qui m'avait dit qu'il le comparait un peu à l'antre du docteur Mabuse, puisque ça n'a pas été mis aux normes, donc c'était encore une espèce de poésie macabre et gothique, paraît-il extraordinaire. Et il y avait un magasin Ouzou à Paris, à côté de la faculté de médecine. Bien évidemment. Non, et je recommande à nos lecteurs le texte que Paul Gilson, grand homme de radio et ami des surréalistes, a consacré au docteur Ouzou dans un recueil intitulé « Le merveilleux ». On ferme le banc avec le cabinet de curiosité de Céline Duchesnay et on se lance maintenant à la découverte des forbans de la nuit. Voilà, extraordinaire musique de Frank Waxman pour les forbans de la nuit, Night in the City, de Jules Dassin, 1951. Notre premier sujet ce soir dans Mauvais Genre spécial DVD, effectivement, à l'occasion de la sortie d'un coffret, monsieur Rouillet.
Énorme, énorme.
C'est même plus qu'un coffret.
Oui,
faut trouver un autre mot.
Lumineux, parce qu'en fait, il y a un
Whiteside Video.
Le Blu-ray, les deux DVD sont glissés carrément dans un album très, très, très magnifiquement illustré, avec un livre de Philippe Garnier qui raconte toute la genèse de ce film. Et ce qui est très intéressant dans ce ultra collector, c'est que sur le Blu-ray, il y a en plus un film sur il y a beaucoup de choses. Il y a la version anglaise du film.
Voilà.
Version anglaise du film et c'est un montage littéralement un peu différent et bon, on pourra en parler tout à l'heure.
Hervé Aubron, un point de vue sur.
Sur l'édition,
voilà.
Ah bah écoutez, oui, bah là on est avec de beaux objets. De toute façon, là le DVD devient de plus en plus, ça coquine de plus en plus avec le livre, ce qui est naturel. Et Voilà.
Ce qui est révélateur du marché, hein. J'ouvre une parenthèse. Évidemment. Enfin, non, je veux dire, le chiffre de la vente s'effondre pour la SVOD et tout ça. Et là, par contre, ça, on comprend bien comment les gens veulent des beaux objets. Ça vaut le coup. C'est autre chose que d'acheter quelque chose sur une plateforme.
Non, parce que c'est un phénomène équivalent qui se passe avec le CD. C'est-à-dire de même le CD qui s'effondre aussi. Maintenant, on télécharge plus facilement qu'on achète de CD, bien évidemment. Et donc se développe tout un marché du coffret de luxe de CD. Soit c'est des coffrets énormes qui contiennent tout Bach, tout Beethoven, qui sont des vrais meubles dans certains cas. Soit c'est des opéras somptueusement présentés. Donc tous les supports ont tendance à disparaître. Il y a une sorte de bizarrement de chant du cygne très beau et très fastueux.
C'est très intéressant de voir l'alliance du livre qu'on disait lui aussi menacé. Et avec les images, quoi, avec les CD, avec les DVD.
Oui, puisque là, on parle du livre de Philippe Garnier, il faut bien signaler, donc c'est un livre relié. L'enquête de Garnier est extrêmement érudite, il est allé dans les archives, fouiller dans les dossiers, dans les fiches de paye, les notes de taxi, les mémos, donc on a une espèce de description, mais hyper description.
En plus, c'est particulièrement passionnant, parce qu'on on a l'habitude qu'il fasse ça, mais le travail sur les forbans de la nuit, il a commencé il y a plus de 10 ans, il a fait des publications dans diverses revues de cinéma, et là il reprend les choses, donc c'est vraiment une recherche qui a été très loin, parce que la genèse du film est très compliquée, quoi, parce qu'on
on part d'un
roman de Gérald Kersch et qui va être vendu, revendu, et à chaque fois qu'il est vendu à de nouveaux producteurs, c'est avec à la clé de nouvelles propositions d'adaptation, de scénarios, etc. D'après ce qu'en dit Garnier, le livre est très difficilement adaptable parce qu'il y a une multitude de personnages et que l'histoire paraît un peu se perdre dans un côté carnavalesque. Il a fallu vraiment tailler dans le vif et réinventer un peu cette histoire. Et puis après arrive Dassin. Et Dassin, voilà. ce qui est très fou, c'est que vous allez comprendre toute l'histoire, c'est que Dassin tourne le film sans avoir lu le livre. Il a lu le scénario,
oui,
hein, dans lequel il a travaillé. Mais c'est très intéressant. C'est vous dire si on est loin dans l'adaptation. C'est-à-dire qu'à aucun moment se pose la question de lire le livre. C'est-à-dire qu'on va partir d'un scénario, il va retravailler, il va mettre à sa main le scénario, mais il n'a pas besoin de partir du livre d'origine. Et mettre à sa main le scénario, vous l'avez dit, c'est un film de 51, c'est la grande époque du film noir pour Dassin. Hein. C'est-à-dire qu'il vient de faire Les démons de la liberté, Les baffons de Frisco,
La cité sans voile.
La cité sans voile, enfin donc plutôt La cité sans voile, Les baffons de Frisco, Les baffons de Frisco à San Francisco, La cité sans voile, c'est New York, avec un côté un peu à la fois thriller, film noir, et presque documentaire sur la ville. Hein. Une approche réaliste et onirique des villes. Et là, en fait, Zanuck, qui produit Les Forbans de la Nuit, lui donne le scénario et lui dit « Et maintenant, tu files à Londres le faire. » Parce qu'en fait, il est rattrapé par la commission McCarthy des activités anti-américaines, et il va être blacklisté. Et donc, Zanuck lui dit « Tu vas à Londres le tourner. » Déjà, tu t'éloignes géographiquement de McCarthy, et tu commences par les séquences les plus chères, comme ça le studio aura du mal à te virer après. Et c'est le dernier film que fait Dassin pour Hollywood, même s'il le tourne pas à Hollywood, parce qu'après c'est du Rififi, son cinquième grand film noir à la suite, hein, du Rififi chez Homme, on en a souvent parlé,
bien sûr.
À Mauvais Genre, qui tourne à Paris.
Jean Servais.
Et puis après il va poursuivre sa carrière en Grèce, hein, avec Mélina Mercouri. Il avait l'habitude de dire, Jules Dassin, qu'il avait trois carrières cinématographiques. Une première où il vient du théâtre, il se fait la main à la RKO, il tourne des séries B. Et puis, tout d'un coup, c'est Les Démons de la Liberté, qui était déjà une précédente très belle édition Wildside,
dont on avait parlé ici.
Voilà. Mmh. Et peut-être que s'il n'y avait pas McCarthy, il serait resté comme un des maîtres du film noir, parce qu'il n'y a pas de raison. Je pense qu'il aurait enquillé encore un certain nombre de classiques.
Alors, à l'origine, donc, un roman très difficilement adaptable, très sombre, très très noir, de Gérald Kersch. Ensuite, un premier producteur qui s'empare du roman, qui fait 12 versions du scénario, aucune n'est satisfaisante. Le casting est absolument impossible à réaliser et le producteur est lui-même un petit peu...
Parce qu'il s'entête à vouloir Cary Grant.
Voilà.
Cary Grant pour un rôle de crapule. Alors,
un peu
banquignolesque. C'est pas du tout possible en 1950.
Arrive Zanuck qui dit on passe aux choses sérieuses, donc il refait travailler, d'ailleurs lui-même ayant un temps très proche du travail sur le scénario, et qui le confie à Dassin. Et donc on arrive avec cette histoire, tournée à Londres. Ça, c'est extrêmement important, puisque de même que Dassin excelle à filmer les villes en décor réel, là, on est confronté à la destinée tout à fait tragique et pathétique d'un margoulin de bas étage, Harry Fabian, qui est une espèce de
un rabatteur.
Dans le roman, c'était un macro, alors voilà,
là c'est
pas
moins
macro,
noir.
C'est
donc,
moins...
donc effectivement,
c'est vraiment une petite frappe, quoi.
Voilà, c'est un rabatteur, ce qui fait qu'il n'a pas la noirceur et le sordide du macro, mais la noirceur est remplacée par une espèce de pathétique. Donc c'est un des premiers très grands rôles de Richard Widmark. Ce Harry Fabian est tenu un peu comme ça, tenu debout par une femme qu'il aime, qu'il a jouée par Jean Turney, et les choses font qu'il rencontre un soir qu'il essaie de rabattre dans un lieu, comme il y a une arène de catch, il rencontre là, il assiste à une scène étonnante entre un impresario de catch, qui est joué par Herbert Lom, et puis son père, qui est un grand nom de la lutte. Et c'est
l'opposition, Stanislas Bisco.
Voilà, qui est un authentique lutteur.
Parce que dans un autre bonus, il y a quelque chose qui est très joli, c'est il y a une émission du club, vous savez, cette émission Défunt qui était sur le câble, qui était animée par notre ami Défunt aussi, Jean-Jacques Bernard, et il y avait vraiment les spécialistes qui se tournaient sur les films classiques et ils avaient un invité, et là c'est l'émission avec Jules Dassin. Et Jules Dassin raconte comment il a imposé ce lutteur, parce que c'est un nom qui lui revenait de son enfance. Il se souvenait que ce type, au début on lui a dit que ce type était mort, et en fait non, il a retrouvé, il élevait des poulets dans le Middle West, etc.
Et il a heureusement accepté de tourner en film. Donc
il a cette présence très impressionnante.
Alors il est très, très impressionnant, et donc ce Harry Fabian va tenter avec ses faibles moyens, mais sa hargne absolument permanente, de susciter l'affrontement entre les générations, c'est-à-dire entre le catch et la lutte, et ça se terminera évidemment au plus mal, puisque donc on ne dit pas pour nos auditeurs,
mais
la fin,
c'est un film
tragique
noir,
hein. et pour plusieurs personnages. Hervé Aubron, alors votre réaction, vous, sur cette nouvelle mouture ?
Cette nouvelle mouture, déjà, c'est un film assez singulier. Moi, je n'ai pas vu le montage anglais, peut-être que Philippe pourra en dire un mot, parce que je crois que le film n'a pas été très bien reçu, d'ailleurs, en Angleterre, parce qu'ils ont estimé que ça donnait une mauvaise image de Londres, les bas-fonds, etc. Ceci dit, Londres reste une ville assez abstraite, je trouve, quand même, dans le film. Il y a de très très belles, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de belles séquences en extérieur, notamment des séquences de track. C'est un film quand même qui, évidemment, est rythmé
par des
courses-poursuites. C'est la fuite en avant.
À la fois existentielle et physique.
Il le théorise à la fin, et d'ailleurs, dans la première séquence, en tous les cas de la version américaine, il propose pour la énième fois, parce qu'en fait c'est à la fois un rabatteur, effectivement une petite frappe, mais c'est aussi quelqu'un qui n'est pas vraiment un mythomane, pas vraiment un affabulateur, mais qui a tout le temps des tocades, des lubies,
des projets,
et tout le monde se fiche de lui, parce que à chaque fois il se lance dans il croit avoir découvert la poule aux œufs d'or. Évidemment, il part dans des histoires de dettes, ça ne marche pas, etc. Et une de ses nouvelles tocades au tout début, c'est d'investir dans les lévriers, dans les courses de lévriers. On entrevoit d'ailleurs une course de lévriers dans le synodrome, et évidemment le lévrier, c'est lui, c'est lui qui court en permanence. Donc il y a de très belles séquences comme ça en extérieur, notamment sur un chantier à la fin où il est traqué par des hommes. Il y a un côté M. le Maudit d'ailleurs. Tout Londres, les bas-fonds de Londres, au bout d'un moment se liguent pour le rechercher, puisque sa tête est mise à prix en fait. Et puis il y a aussi d'ailleurs cette très belle séquence avec une caméra embarquée dans une voiture, précisément, où vraiment comme dans M. le Maudit, on contamine en quelque sorte la ville avec sa traque, enfin, on pousse toute la ville à se liguer contre lui. Donc finalement, la ville est assez abstraite quand même. Séquence.
Malgré des efforts quand même de Dassin pour la rendre collante et un peu poissonne. Voilà. Il y a notamment la visite dans cette espèce de magasin où on vend des accessoires pour faux mendiants.
Il soutient que c'était un vrai magasin, voilà, qu'il a trouvé ça.
Il y a un côté Woody Dickens, un peu. C'est un personnage un peu à la Dickens.
Et le fait que il tourne, par exemple, toute la fin est réellement tournée entre Chien et Loup. Voilà. C'est-à-dire qu'on va tourner sur plusieurs petit jours, au petit matin ou au crépuscule à d'autres moments du film. Donc, c'est à la fois en extérieur, mais il y a cet éclairage soit crépusculaire...
Ou expressionniste, enfin vraiment...
Expressionniste, c'est très très étonnant. C'est pour ça qu'au début, je disais, c'est à la fois documentaire et onirique.
Oui.
Hein, il y a un côté.
Et Londres reste quand même, oui.
Oui, il y a une certaine opacité.
C'est à Londres. Mais... Il y a un mélange entre une monumentalité froide, anguleuse, officielle. Mmh. C'est le Londres, la capitale de l'Empire britannique. Et puis le Londres d'après les bombardements et le Blitz. C'est-à-dire le Londres de la fin des années 40 et des années 50, c'est qui est un Londres en construction avec des ruines, avec des lieux de délabrement. Donc, il y a une espèce de...
Et puis il y a du studio. Il est clair que la boîte de nuit dans laquelle il travaille n'existe pas. Mmh. Et ce genre, tout les observateurs disent que ce genre de boîte n'a pas existé dans les années 50 à Londres. C'est une vision un peu fantasmatique.
Mais ce qui je trouve assez vraiment touchant dans le film, c'est qu'effectivement, donc c'est un film, voilà, c'est aussi un film de faussaire. Mais c'est un faussaire. D'ailleurs, c'est assez beau. Il y en a un qui le définit au début. D'ailleurs, c'est un personnage. On pourra peut-être aussi en parler. Enfin, il y a des personnages tronqués, je trouve, un peu dans le film, mais qui ajoutent à sa bizarrerie. Par exemple, le voisin. Qui est apparemment un concepteur de jouets. On se dit, tiens, qui visiblement est amoureux, secrètement amoureux de Jean Ternet, qui est donc la compagne de Widmark, et qui ne fait rien. Enfin, ensuite, le
personnage est laissé.
Alors que tout d'un coup, on installe quand même une mythologie très forte avec le créateur de jouets. Et simplement, il a une très belle définition. Il dit, c'est un artiste sans art, ton mari. Et après, le dit artiste sans art fait la tournée des faussaires, puisqu'il y a les faux mendiants, il y a le copiste qui fait des faux passeports ou des faux papiers, etc. Et évidemment, il ne vend que
Du vent. Et des matchs tronqués.
Donc il y a quelque chose là-dessus. Et en même temps, il y a un principe de réalité très fort avec la scène centrale de lutte, avec vraiment au plus près des corps, etc. Et où lui-même est rattrapé par cette réalité. Donc il y a quelque chose d'intéressant sur le faussaire face au principe de réalité.
Out. I beg your pardon. Out. What do you mean, this is a public place?
So's the mall. Move.
Well, evidently you don't know who I am.
Mr. Christo don't like club touts hustling suckers in his arena. Get out.
Pigs! 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 Let them hear. Pigs! Come on.
That's Gregorius.
Who? Finest wrestler the world's ever known.
Papa, please. Where are you going?
Is it for this you brought me from Athens? The circus? What have you done to wrestling? Do you think I permit Nicholas to wrestle with such filth?
No. Take it easy, old boy. Take it easy.
You do not talk like that to my father. Get out.
For this, I do not thank you, my son.
Please, Papa. Listen to me. You must understand that times have changed. Tastes, people, everything changes. Tomorrow morning I'll take you and Nick to Liverpool. I've got everything arranged for you there. An arena, a gymnasium. I want to do only good for you, Papa. See you have a nice life now, to be near you.
Tomorrow I go back to Athens.
Voilà, demain je repars à Athènes. Gregorius, l'incarnation du sport noble, de la conception aristocratique de la lutte gréco-romaine, ne supporte pas le catch qu'organise son fils dans les bas-fonds de Londres, et il dit « Demain, je rentre à Athènes ». Et il ne rentrera, hélas, pas à Athènes. Alors, au cœur du film, Philippe Rouillet, Richard Widmark. Alors, Widmark, c'est pas son premier film. Il a eu l'occasion de tester l'instrument, si j'ose dire, dans d'autres films, notamment « Carrefour de la mort » d'Attaway, où il joue un tueur psychopathe, notamment avec sa célèbre scène.
Rire.
Avec ce rire ébréché, il pousse la vieille dame dans l'escalier. Là. Enfin, bon, et là, on a un personnage, effectivement, de fuite en avant, qui se carapate en permanence. Et le premier plan dit tout. C'est un homme qui sacrifie aux apparences et au look.
Voilà, il est en pleine course-poursuite et il perd son œil à la boutonnière.
Et il s'arrête le temps pour récupérer son œil.
Pour le récupérer, voilà. Et tout est dit, quoi. Et déboulé dans l'appartement de Jean Ternet. Et là, ça y est, c'est les mensonges à tout va. Il doit expliquer pourquoi il est pas là depuis 3 jours. Comment, en fait, il a découvert... le nouveau moyen de s'enrichir. Parce que ce qui est fort, en fait, c'est que il aurait les moyens de vivre. Mais il veut être quelqu'un, c'est ses mots. Il veut être quelqu'un, il veut pas être monsieur tout le monde. Et paradoxalement, il est avec une femme qui n'aspire que à avoir un bonheur tranquille, j'allais dire, de mère de famille. Alors évidemment, on sent que le voisin inventeur est plus, sans doute, du côté de Gene Turney, quoi. C'est que peut-être quelque chose va se passer entre eux. Mais le personnage de Richard Widmark, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut pas ne pas l'aimer. En fait, il est un peu comme un enfant. Il a sans cesse des espèces de rêves qui sont pas sérieux, et même s'il vole, s'il embobine tout le monde, on voit bien que c'est pas juste pour s'enrichir, c'est parce qu'il croit vraiment dans ce qu'il va faire et que ça va être formidable et que tout le monde va bénéficier de parce qu'il y a une espèce de générosité. Sa relation avec ce catcheur dont je vous ai donné le nom tout à l'heure, ce lutteur, il a un énorme respect pour lui. Alors évidemment, il a prévu des carambouilles de l'homme, mais il est sincèrement impressionné par lui. Et c'est très intéressant ce rapport de filiation, parce que l'autre a son vrai fils et puis il y a celui-là qui se donne comme son fils spirituel, qui va passer pour le fils qu'il aimerait avoir. Et puis évidemment, le principe de réalité, c'est ce que disait Hervé tout à l'heure, le principe de réalité rattrape toujours, et il a beau fuir, courir, il y a toujours le principe de réalité qui vient sonner à la porte.
Hervé Aubron, Richard Widmark, un enfant pathétique qui est voué à une sorte de fuite en avant et de course-poursuite, poursuivi à la fois sûrement par ses fantômes, mais quand même un ange de miséricorde est là pour le couver, c'est Gene Turney. Alors qu'on voit au début qu'il se fait quand même arnaquer, mais avec son accord, puisqu'elle connaît l'homme à qui elle a affaire et elle en accepte les travers et les défauts, puis qui réapparaît à la fin pour d'une certaine façon conclure son destin.
Oui, alors Gene Turney, c'est vrai que c'est un personnage, alors c'est intéressant Gene Turney parce qu'elle a notamment joué dans Madame Muir, le fantôme de Madame Muir, et elle a un côté assez, c'est elle le fantôme je trouve un peu dans le film, elle a un côté assez spectral, effectivement c'est la bonne âme qui d'ailleurs voilà, un amour assez quand même sidérant dans son inconditionnalité, donc c'est une espèce de fantôme.
Pas très charnel, hein. On sent pas un amour très.
C'est pas très charnel. Non, il y a un côté effectivement angélique dans tous les au sens le plus large dans le personnage. Donc c'est qui est un peu une abstraction, je trouve, dans le film. Alors on pourrait dire que c'est une faiblesse, mais je trouve ça intéressant parce que globalement d'ailleurs dans la façon dont il joue des seconds rôles, c'est assez intéressant dans le film, parce qu'il y a d'un côté des seconds rôles qui sont un peu abstraits, comme ça, un peu comme des ombres. Je parlais de ce voisin qui a des caractéristiques très fortes au début et dont le film ne fait rien. Peut-être pas volontairement, mais ça donne du coup quelque chose d'assez singulier.
Pourtant, le patron de boîte et sa femme.
Ah, voilà. Alors, en revanche,
eux, au contraire, c'est
ce qui est très beau là dedans, c'est que effectivement, parfois, il y a des seconds rôles, parce que bon, le rôle principal, c'est Widmark, mais qui prennent presque le dessus, parce que il y a le lutteur à l'ancienne,
alors, qui fait couple avec son disciple.
Avec son disciple, oui.
L'étrangleur. Ouais.
Après, il y a l'étrangleur. Bon, voilà. Et puis, il y a ce très beau couple un peu infernal, donc de la boîte de nuit.
Noceros.
C'est-à-dire une espèce d'être...
Francis Sullivan.
Tenancier assez huileux, adipeux, qui gâte sa compagne, qui est en gros la maquerelle. Parce que quand même, Gene Turney a beau être angélique, elle est quand même entraîneuse dans la boîte. Hein,
bon, et chanteuse. Mais,
voilà, oui, et chanteuse.
Enfin, oui, voilà. C'est un peu flou, hein, voilà. L'activité.
Et on sent, et ça c'est très beau, que la femme du tenancier est perpétuellement dégoûtée, enfin, est en permanence dégoûtée par lui. Il y a notamment une très belle scène de baiser qui ne va pas à son terme, enfin voler, oui, en quelque sorte. Et ce personnage-là, est assez... assez désespéré, désespérant.
Mais les deux sont touchants. C'est-à-dire le tenancier qui sait très bien qu'il tient sa femme uniquement par l'argent. Il y a une fourrure qu'il lui offre. Et la déception de voir qu'elle s'est empressée de revendre la fourrure pour faire un trafic, etc. Et puis elle qui se bat pour vivre. Elle reste avec ce gros qui la répugne pour avoir à bouffer. Et elle essaye de monter elle aussi une carambouille pour se sauver et ça ne marche pas.
Et d'embarquer Widmark dans la ferme.
Voilà. Et évidemment une planche pourrie, donc ça peut pas marcher leur histoire. Elle revient, la queue entre les jambes. Et ce qui est terrible, c'est que lui sait qu'il va la reprendre. Elle sait qu'elle va retourner.
Et c'est ça qui est quand même intéressant dans ce personnage, c'est le seul qui finalement marque, en dehors de Gene Turney, une réelle affectivité finalement dans le... Enfin, j'exagère parce que le personnage d'Herbert Lom, donc Herbert Lom,
qui est le fils indigne, mais qui le fils prodigue,
par ailleurs, va menacer le personnage de Widmark parce que il veut avoir le monopole sur la lutte. Lui-même a une très belle scène entre père et fils au terme d'un match de titan, on va dire, hallucinant, qui est quand même le match central. Mais en tous les cas, le tenancier, c'est celui qui montre le plus d'affectivité quand même. Alors même que a priori, il est dans le rôle de l'usurier.
Voilà. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que les personnages, on devrait tous les détester, et en fait, on les aime tous. D'une certaine manière, c'est je pense la réussite du film par rapport au livre où on disait que c'était que des personnages pas intéressants, très crapouilleux, et alors que là finalement il y a une émotion et le film nous gagne, c'est-à-dire que d'un côté il y a la force du film noir jusque dans son côté social et il y a un vrai romantisme et un humanisme.
Les Forbans de la nuit de Jules Dassin, donc à découvrir ou à redécouvrir dans des conditions idéales, donc grâce à ce coffret hyper collector chez Wildside Vidéo. On passe maintenant au second sujet de ce soir dans Mauvais Genre sur France Culture, Network de Sidney Lumet.
I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street, and there's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe, and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I don't want you to protest, I don't want you to riot, I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being, God damn it, my life has value.
Voilà la prédication enflammée d'une ancienne gloire de la télévision qui, après avoir été présentateur pendant des années, devient brusquement, de part... faut pas dire le doigt de Dieu ou la folie, prophète Hervé Aubron. Network donc de Sidney Lumet, un film de 1976.
Oui, c'est un film très singulier, et notamment parce qu'il est réalisé par Sidney Lumet. C'est pas forcément un sujet sur lequel on aurait pu attendre Sidney Lumet, puisque c'est vraiment quelque chose, et effectivement le film a marqué pour cela. C'est un des premiers films qui prend sérieusement en compte les possibles dérives de la télévision. Bon, on pourra en parler peut-être, mais c'est peut-être plus le web qui l'annonce que la télévision. Je veux dire les vidéos furieuses, que l'autofilmage furieux qu'on peut voir sur Internet où n'importe qui dégaine son imprécation ou son édito furieux à la face du monde, ce qui n'a pas vraiment été le cas à la télévision, d'un certain point de vue, enfin, de manière aussi échevelée. Bon, mais en tout cas, c'est sûr que c'est le premier à prendre la mesure, voilà, de la télé-réalité à venir, de l'infotainment, etc. Mais là où c'est assez curieux, c'est que c'est vrai que Lumet, qui est un cinéaste, en tous les cas en France, qui a été longtemps sous-estimé, mal aimé, considéré comme un progressiste politiquement correct et bon artisan, mais qui s'est quand même notamment quand même distingué justement dans les films qu'il a réalisé juste avant Network, c'est notamment Serpico et Un après-midi de chien avec Pacino, avec quand même une quelque chose qui est plus sur le vif, le naturel, le théâtre filmé, diront les mauvaises langues, mais donc pas forcément quelque chose qui est sur le simulacre, le spectacle. On est quand même 10 ans avant Ginger et Fred, et le show dont le film montre la fabrique et les coulisses, il y a évidemment tout le stuc, le show crapuleux, tape à l'œil, etc. Et donc sur le simulacre, on n'attend pas forcément Sidney Lumet, mais et c'est là que le film devient intéressant. Il faut pas oublier que Sidney Lumet, il vient de deux choses, en effet. Il vient du théâtre Et il vient de la télé, en effet, puisqu'il a commencé par faire des dramatiques en direct. Et c'est d'ailleurs notamment pour ça, je crois, que Paddy Chayefsky, donc il faudra donc, peut-être en parler, le scénariste, mais qui visiblement était plus qu'un scénariste, qui était une espèce de showrunner avant l'heure, qui contrôlait de bout en bout ce qu'il concevait, il a sûrement pris Lumet pour son expérience de la télévision. Mais ce que je trouve assez intéressant dans le film, c'est qu'il y a presque, parfois, comme une mauvaise conscience de Lumet. C'est-à-dire, jusqu'à quel point j'échappe à la télévision dans le cinéma. Déjà parce que le film, c'est intéressant, il est raconté en voix off, mais plutôt avec une voix de speaker. C'est-à-dire que la télévision, les procédures de la télévision contaminent
l'espace filmique.
Ouais. L'espace filmique tout entier. Et donc, il y a presque comme peut-être une inquiétude de Lumet en disant, j'ai peut-être fait entrer le loup dans la bergerie. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression.
C'est-à-dire que le ton du film est très particulier.
On peut résumer rapidement l'intrigue.
Oui, on n'a pas résumé.
Alors, l'intrigue, c'est un présentateur vedette de la télévision, mais vieillissant, à qui on annonce au début du film qu'il a plus que 15 jours, parce que après, les indices d'écoute étant pas satisfaisantes, il est licencié. Voilà. Et lui, quand il prend l'antenne, alors qu'il sait qu'il a plus que 15 jours, annonce que du coup, il va se suicider en direct la semaine prochaine. Et du coup, voilà, c'était tout.
Et tout un fait divers, entre guillemets, authentique, américain.
Voilà, rester branché. Alors évidemment, son émission, à ce moment-là,
explose.
Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est évidemment une vision très satirique de la télévision. Mais par exemple, Oliver Stone, il y a 5 ans, a voulu passer ce film à des jeunes Américains qui n'en ont pas du tout vu l'aspect satirique, parce qu'en fait, pour eux, c'était réaliste. Alors, je suis d'accord avec Hervé quand il dit que c'est plutôt le côté prédicateur en colère, ça, c'est plutôt YouTube et Internet, mais le côté folie de l'audimat, des indices d'écoute, avec cette voix off qui dit « voilà l'histoire du premier homme qui est mort à cause de la faiblesse de ses indices d'écoute », voilà, ça c'est... Et comment on va faire des programmes de tout et de n'importe quoi
Surtout, comment on mélange l'entertainment et l'information. Voilà. C'est toute une rivalité interne entre le vieux chef de l'information qui est incarné par William Holden et la petite génie de la fiction qui est
Faye Dunaway. Et on a vu comment ça basculait en France, aux États-Unis dans les années 80 et 90, où finalement on se retrouvait avec des émissions d'information qui étaient plus... souvenons-nous rien que du générique du journal télévisé de 20h qui ressemblait à celui du Prix du Danger, avec cet hélicoptère, etc. Et où finalement, on s'intéressait plus à du fait divers plus qu'aux grands conflits internationaux, à l'analyse des choses. Et ce qui est très intéressant, c'est que 76 aux États-Unis, c'est le moment où l'information va commencer à être autre chose, parce qu'on a traité de manière merveilleuse, c'est le moment des hommes du président et tout ça, on a traité de manière merveilleuse le Watergate, la fin de la crise au Vietnam, etc. Et petit à petit, on va arriver vers cet infospectacle. Et le film, pour ça, est visionnaire. Il y a un côté prophétique, mais qui l'habille sous la satire.
Alors, ce personnage, donc, cette ex-gloire du prime time télévisé qui est mis sur la touche pour raison de succès et d'audimat, eh bien, bascule dans la folie. Cette folie est une folie prophétique, incantatoire. Ça devient une sorte de prédicateur, de télévangéliste permanent. Et évidemment, la machine, la grande structure médiatique télévisuelle américaine, au lieu de l'éjecter, se dit « Ah, il y a là, c'est Faye Dunaway qui joue évidemment ce rôle, il y a là quelque chose pour nous. » Et donc, effectivement, la machine a réingurgite ce personnage qu'elle avait vomi, met en scène sa folie et pousse cette folie au maximum. Et quand cette folie, eh bien, ma foi, ne sera plus bankable, comme on dit, eh bien, là, du coup, véritablement, on l'exclura et de manière assez radicale. On écoute la suite du premier extrait qu'on a entendu tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était le personnage seul dans son studio qui se levait en impair et qui commençait à jouer les Savonarole du prime time américain. Et en invoquant la foule et en demandant à la foule d'apparaître aux fenêtres et de hurler sa rage. Et on écoute maintenant justement les conséquences de cette prédication télévisée.
I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it and stick your head out and yell, I'm as mad as hell and I'm not going to take this anymore. I want you to get up right now.
Get up.
Stay with
them. Go to your windows, open them, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Things have got to change.
How many stations does this go out?
You've got to get mad.
67.
Say,
I know it goes to Louisville and Atlanta.
I'm not going to take this anymore. Then we'll figure out what to do about the depression and the inflation and the oil crisis. But first, get up out of your chairs, open the window, stick your head out and yell, and say, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore.
Who are you talking to, Herb?
CGG, Atlanta.
Are they yelling in Atlanta, Herb?
Are they yelling in Atlanta, Ted?
But first, you've got to get mad. You've got to say, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore.
They're yelling in Baton Rouge.
God damn it. Get up, get up, get up out of your chair.
Son of a bitch! We struck the mother lobe!
Stick your head out of the window, open it, then stick your head out and keep yelling and yell, I'm as mad as hell, I'm not going to take this anymore. Just get up from your chairs right now. Go to the
window.
Where
are you going? I want to see if anybody's yelling.
Open it and stick your head out and yell and keep yelling. I'm
mad as hell. How am I going to take this anymore?
Alors, c'est extraordinaire puisque Lumet et Chaïevski là mettent tout au service de l'effet apocalyptique, d'apocalypse sociale générée par le commentateur télé, puisque l'orage se met de leur côté. Donc on a à la fois la folie d'un homme seul dans son studio qui est comme ça filmé attentivement par le média. Il y a après les conséquences publiques de ce programme qui fait que les gens marchent, apparaissent à la fenêtre et on les entend, ils commencent à hurler en exactement le slogan qu'eux-mêmes leur a proposé. Et puis alors l'orage qui couvre tout ça d'une espèce d'approbation apocalyptique, on peut
mais
dire.
C'est très cinéma américain des années 70,
très étonnant, hein.
Ce côté bigger than life. On part de quelque chose de très ancré dans le réel et on en arrive à quelque chose de métaphysique, de presque de cosmogonique. Et la mise en scène de Lumet est comme ça. C'est-à-dire que vous avez remarqué dans tous ces extraits, il n'y a jamais de musique. On n'imagine pas aujourd'hui un film comme ça où il y aurait de tels moments d'accomplissement quand tout le monde est à la fenêtre qui a l'orage. Inévitablement, il y aurait de la musique dans un film américain aujourd'hui. Là, il n'y en a pas. Il y a cette vraie âpreté. Et quand on regarde attentivement le film, on s'aperçoit que le début du film, on est vraiment dans un côté très réaliste. Il a beaucoup travaillé sur... il sait ce que c'est qu'une chaîne de télévision, mais il a été en visiter... il a été visiter les trois grandes networks pour construire la quatrième, la sienne, UBS, qui est une fiction, mais c'est la synthèse des trois autres. Et petit à petit, on voit comment... les couleurs s'invitent dans le film. C'est-à-dire que petit à petit, le film s'affranchit de ce côté documentaire du réel pour aller vers quelque chose de plus ample et de plus fou, qui est en quelque sorte contaminé par la folie du personnage.
Plus ample, mais aussi qui évoque aussi de plus en plus les couleurs extravagantes du décor dans lequel s'exprime Howard Beale, puisque donc il y a des médiums en face d'une espèce de cours des miracles.
Il n'est pas tout seul.
C'est-à-dire que son émission devient une sorte de millefeuille.
Il y a des chroniqueur psycho, je ne sais pas quoi, des voyants.
Il y a la pitié, il y a la vox populi.
Et il invitera derrière lui. Donc effectivement, les couleurs, c'est à la fois peut-être quelque chose éventuellement de... cosmogonique, pour reprendre ton terme, mais c'est aussi le toc de la télé. Voilà, je parlais de Ginger et Fred, de Fellini.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, le cosmogonique, c'est le contraire du toc. Enfin, je veux dire, les deux sont là, les deux se rejoignent.
Et ce qui est beau aussi dans le film, et c'est peut-être en cela qu'il est un brin utopique quand même, c'est qu'on pourrait dire que c'est un film, à la base, sur le trucage de la vérité, pour reprendre un bon vieux chiasme, mais évidemment... réalité bidouillée, notamment par Faye Dunaway, qui, on n'en a pas parlé, embauche des terroristes, noirs, d'extrême gauche, pour en gros faire des attentats sur commande. Enfin bon.
Donc, mais ce sont des vrais terroristes.
Oui,
c'est
ça
qui est très intéressant. C'est-à-dire que c'est aussi un film sur le capitalisme.
Oui, et alors justement, mais ce que je trouve intéressant et utopique quand même, c'est que, donc, un film sur le trucage de la vérité, et d'un certain point de vue, qui à la fin, voudrait délivrer la vérité du trucage. Et ce qui est très beau dans le film, et pendant une autre séquence culte du film, c'est qu'effectivement, tout d'un coup, il y a un problème parce que le prophète commence à devenir un dangereux, gauchiste qui s'ignore, qui en gros dit à tous ses spectateurs qu'ils sont aliénés, et qu'en plus, Il y a des fonds bizarres qui arrivent.
Non, mais justement, mais ça, c'est ça qui est marquant, c'est que ça commence. Il est mis en scène comme un télévangéliste.
Oui.
Tous ces hommes qui descendent d'une petite estrade vers la foule, un peu comme Jésus parle aux siens et qui communique la parole de vérité, qui est forcément le culte de l'effort, de la sincérité, un discours purement moral. Et il finit en mettant en cause les magouilles financières qui régissent le groupe de médias dans lequel est la télévision. Alors là, on le trouve moins drôle.
Oui, mais ce qui est incroyable, c'est qu'à ce moment-là, il y a une fameuse scène où, en fait, l'actionnaire principal de la télé le convoque. On se dit qu'il va le virer. Et non, en fait, il le switch. C'est-à-dire qu'il lui dit, mais non, je vais te donner la nouvelle religion. Et là, il lui fait une espèce de thermodynamique anti-individualiste, post-humaine, quasiment, disant, les individus, on s'en fout. On n'est que dans le flux de devises, de monnaie. Et il n'y a plus que ça. Donc, une espèce de nihilisme dingue.
Mais qui est totalement visionnaire, là encore.
Et qui est vrai, et qui est la vérité du capitalisme, qui se met à diffuser.
Et je veux dire, ce qui est fou, c'est qu'il dit ça en 76. Aujourd'hui, on est toujours là.
Bien sûr.
Et c'est, faut quand même dire que c'est Ned Beatty qui joue ce super actionnaire et qui est filmé en contre-jour comme s'il était Dieu.
Hein, voilà.
Et Ned Beatty qui a eu une journée de tournage juste pour cette séquence-là. Et la mise en scène doit être forte puisque le personnage est, comme tu dis, complètement retourné par cette vision et son discours.
Oui, parce que en fait l'actionnaire a l'intelligence de reprendre exactement les termes que aurait entendu durant une crise de délire mégalomane.
Oui, c'est la conversion,
voilà,
en pleine nuit là.
Il devient le dieu du capitalisme et finalement donc on est dans le simulacre total, mais d'un certain point de vue, à travers la bouche de cet imprécateur, sort effectivement la vérité du capitalisme. Donc là, il y a peut-être une part quand même, je dirais, un brin utopique chez
oui, mais mecs. Une vérité que justement, on ne peut pas entendre. Ce qui arrive déjà dans la première séquence, parce que quand il annonce qu'il va se suicider à l'antenne, les gens qui sont à la technique, à la régie, etc., sont tellement dans une routine qu'ils n'écoutent pas.
Dans le flux,
ils n'ont pas entendu.
Et c'est l'ingénieur du son qui déboule en disant mais il faut le sortir de là, il faut arrêter l'émission, on peut pas le laisser dire ça. Ils n'entendent pas ce qu'il dit avec ces mots. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que nous, spectateurs, on risque de ne même pas entendre ce message-là. Et revoir le film 50 ans après est très passionnant pour ça. Le film ne peut être que réévalué. Enfin, moi, c'est un film que j'ai revu régulièrement au fil des éditions DVD. C'est un film qui a un peu, sur mon adolescence, avait un peu une aura mythique et toujours le film était passionnant. Mais je trouve qu'à chaque fois qu'on le revoit, on y trouve quelque chose de différent. Parce que le film est très malin pour ça. Selon la manière dont on le regarde, c'est des facettes différentes qui apparaissent.
Avec aussi une réflexion sur la décadence du journalisme américain. Puisqu'on commence, on voit William Holden, et donc l'acteur qui va jouer Peter Finch, qui va jouer ce visionnaire égaré, comme ça, qui sera broyé par la média, date, je dirais, de l'origine des médias d'après-guerre, c'est-à-dire une époque où il y avait encore, entre guillemets, on va pas donner une vision irénique et angélique de la télévision américaine d'après la Seconde Guerre mondiale, mais enfin une espèce d'humanisme, le côté comme ça un petit peu Kennedy, une espèce des gens qui venaient de la guerre, qui avaient filmé la guerre ou qui l'avaient couverte pour des organes de presse, donc qui étaient allés au contact d'une réalité qui était peut-être la pire et une réalité que Lumet lui aussi aura vu quand il est au Vietnam. D'ailleurs, il y a un film qui est donné en complément qui montre bien les spectacles.
Extraordinaire. C'est un film qui s'appelle By Sidney Lumet, qui dure 1h50, qui à partir d'un entretien réalisé en 2008 avec Lumet, où il revient sur toute sa carrière, mais aussi sur sa vie. Et un épisode traumatisant du Vietnam, qui a déterminé en quelque sorte tout son sens de dramaturge. Et je trouve que c'est un film important parce qu'il donne un peu les clés de qu'est-ce que c'est que le cinéma de Lumet. C'est quoi le fil rouge entre tous ces films qu'on a cités? Parce que quand on dit progressisme et tout ça, c'est un peu schématique. Ça va quand même plus loin, quoi. Il y a quand même l'idée que le sujet de son cinéma, c'est l'individu et l'implication de l'individu par rapport au groupe.
L'homme par rapport à la
collectivité. Est-ce que c'est juste ce que je fais?
Et l'individu d'ailleurs qui est mis en question très, en tant que même que concept, que notion dans le film. Je voudrais juste dire deux petites choses sur les personnages du film. D'abord, je trouve que c'est un film qui est quand même effectivement assez fort sur aussi ce que fait la télévision aux gens. C'est-à-dire qu'on voit aussi des personnages télévisés au sens vraiment le plus littéral. Je pense bien sûr au personnage du prédicateur quand même qu'on zappe, qu'on fait changer de programme littéralement, qui change de discours comme on changerait de chaîne de télé, c'est-à-dire qu'il est câblé à sa façon. Et puis bien sûr le personnage de Faye Dunaway qui ne parle que de la télé, que d'Audimat, y compris quand elle fait l'amour,
quoi, ouais.
etc. Et d'ailleurs, voilà, très beau couple, finalement, couple impossible, entre Faye Dunaway, qui jouera quand même Laura Mars, les yeux de Laura Mars, c'est-à-dire une espèce de pitié précisément de voyante.
Juste deux ans après. Irvine Kershner.
Donc c'est un peu la pitié télévisuelle et le vieux journaliste William Holden. Mais ce qui est intéressant, et là aussi c'est en ça que le film est faussement naïf, c'est vrai, William Holden quand même qui est un fantôme de Sunset Boulevard. C'était quand même le narrateur mort
de Sunset Boulevard,
le scénariste, mais Sunset Boulevard précisément, qui montrait déjà que du temps du bon vieil Hollywood, il y avait déjà de la magouille, des cadavres dans le placard, etc., etc. Et que donc le spectacle ne date pas non plus de la télévision.
C'est ça qui est, pour conclure, en cela que le film est si riche. Et faut quand même pas oublier que c'est un film d'acteurs aussi. Hein. On a donné tous ces noms. Il y a Faye Dunaway, il y a Peter Finch.
C'est un Oscar posthume.
Voilà, parce qu'il meurt juste après les prises de vue. Il voit même pas le film fini. Et sa prestation de prédicateur en est
et
aussi.
Robert Duvall, excellent, extraordinaire, prédateur des actionnaires. Enfin.
Voilà. Et on n'a pas dit un mot du scénariste Paddy Chayefsky, qui est quand même l'âme du film. C'est lui qui a écrit ce film.
Et on laisse à nos auditeurs le...
Trois Oscars pour Paddy Chayefsky.
Hein, voilà, effectivement. Il y a un livre, lui est consacré. Donc,
dans cette édition Carlotta, avec le film sur Lumet, le livre sur Chayefsky, c'est encore une
à
édition.
Redécouvrir, à redécouvrir donc aux éditions Carlotta. On termine cette émission, bien évidemment, avec Christophe Beer.
Après un premier film en Russie en 1925, il part tourner en Allemagne. D'origine juive, il s'exile bientôt en France. Le succès mondial de son Meyerling avec Daniel Darieux le propulse aux États-Unis. Il y commet un film anti-nazi, Confession d'un espion nazi, puis s'engage dans le service cinéma des armées auprès de Frank Capra, filmant notamment la bataille de Russie. Après-guerre, il y a Raccrocher, c'est une erreur et La fosse au serpent, puis un nouveau départ pour l'Europe, sans doute motivé par le maccartisme. Sous-évalué par la critique qui le voit en artisan touche-à-tout au service des filons commerciaux, Anatole Litvak mérite le statut d'auteur que la sortie en Blu-ray chez Sidonis de son avant-dernier film confirme magistralement. La Nuit des Généraux, tournée en 1966, se démarque des grosses productions guerrières à la mode. Malgré ses 2h26 et quelques effets pyrotechniques, il n'a rien de la prétention hagiographique de Paris brûle-t-il, dont il recycle des décors. Il se détourne aussi du noir et blanc réaliste du jour le plus long pour un technicolor aux couleurs de la folie sexuelle. Le sang reste hors champ. De rouge, il n'y a que la large bande de pantalon du général allemand Tanz, aperçu par le trou d'une porte après qu'il a sauvagement tué une prostituée à Varsovie en 1942. Sur ce seul indice, le major Grau traque le coupable que le scénario, par son ampleur temporelle, élève au rang d'un serial killer commettant deux autres meurtres semblables à Paris en 1944, puis à Hambourg en 1965. Tanz aurait été inspiré par le major SS Joachim Peiper, incendiant des villages et massacrant leurs habitants sur le front russe. Le début du film le montre, orchestrant au lance-flammes la destruction de quartiers entiers de Varsovie. Peter O'Toole est saisissant. Maniaque de la propreté et fétichiste des gants, le regard impassible, il ordonne le chaos. Sa composition exemplaire repose sur cette maîtrise physique, une rigidité qui succombe à l'alcool, hantée par le thème enivrant de Maurice Jarre. Litvak ouvre des pistes, comme le syndrome de Stendhal qui éclate devant la contemplation d'un autoportrait de Van Gogh, ou la schizophrénie que suggère le reflet démultiplié de Tanz dans un miroir brisé. Mais l'opiniâtre enquêteur, incarné par Omar Sharif, relève d'une autre obsession, tout aussi opaque, tandis que le crime s'organise quotidiennement à grande échelle et que des généraux complotent contre Hitler. La guerre n'est qu'un prétexte grandiose qui souligne la fragilité des deux personnages enfermés dans leur passion. Éclate alors une qualité majeure de Litvak, peu courante dans le cinéma, une direction d'acteur minutieuse que la mise en scène constamment privilégie et qui s'exerce jusqu'au moindre rôle.
Merci Christophe Beer, merci Hervé Aubron d'être venu ce soir parler donc cinéma à mauvais genre, et on était vraiment évidemment très impatients de lire votre biographie de Jean-Patrick Manchette. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Emmanuel Couturier, Serme Boutata, Claire Martin Dugard, Céline Duchesnet, Philippe Rouillet, Hervé Aubron, Christophe Beer et François Joliet vous remercient d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain où je recevrai le romancier Jean-Luc André d'Ascagno pour Souviens-toi des monstres, un roman paru aux Forges de Vulcain. Et d'ici là, bonne nuit à tous.